Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. John Cage, 1919-1992. Une vie, une œuvre, pour ses rediffusions, a décidé de jouer au jeu des pères, pères d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi, sa moitié le dimanche. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était compositeur, musicien, performeur, peintre, poète, auteur et mycologue. De celui qui a su utiliser le silence autant que les bruits et le hasard, John Cage. Et demain, donc, ce sera Merce Cunningham, son grand amour, son collaborateur, l'inoubliable chorégraphe, les deux faces d'une même pièce. Sur les photos, Cage rit aux éclats, ou alors il sourit, et son regard est bienveillant. Grand, mince, souvent en costume-cravate, il tient parfois un élégant fume-cigarette. C'est vraiment un homme d'avant-guerre. Sur aucune image, on ne le surprend en sandales ou en tunique bariolée, même s'il arbore parfois plus âgé, une barbe indisciplinée, une chemise en jean ou un énorme pull côtelé. C'est un homme sérieux qui ne se prend pas au sérieux, un homme mûr qui pose avec un chapeau de clown sur la tête ou un chat sur les genoux. C'est un inventeur, penché sur des machines ou des pianos. Alors prêtons l'oreille à John Cage, inventeur d'une musique inouïe, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Anne Pérez.
Il vivait Bank Street, il neigeait Bank Street dans le village.
À New York ?
Village, évidemment, à New York. Et il était dans un basement, c'est en bas. Il y avait ses pièces multiples de plantes, il notait toutes ces petites plantes, ces petits pots, il était très fervent et connaisseur, comme des champignons d'ailleurs. Et j'ai appuyé sur sa sonnette, John Cage.
What's your name?
My name's John.
Je trouve que ma vie est pleine d'inconsistances. C'est inconsistant. Et j'aime bien ça.
Raconter John Cage. Sa haute silhouette mince, son enfance de petit gars de LA qui se souvient d'avoir marché sur des trottoirs fondus par la chaleur. Raconter John Cage, inventeur dans l'âme qui pose sur les cordes du piano des œufs à repriser, qui recolle au hasard des restes de bandes magnétiques trouvées dans les poubelles des studios de Milan pour faire de la tape music, ou qui plonge des gongs sous l'eau pour des balais aquatiques. Raconter John Cage, discrètement anarchiste, totalement bouddhiste, peintre, poète, léger et sérieux. Cage, qui aime cuisiner des noix de terre ou chercher à manger, dans l'herbe, sur les buissons. Raconter John Cage, qui recommande d'écouter un son lorsqu'il nous ennuie et qui ouvre simplement la fenêtre quand il veut écouter de la musique. Raconter son choix de laisser le hasard décider à la place du compositeur. Alors, pour le raconter et le comprendre, peut-être faut-il aussi laisser le hasard décider de l'ordre des séquences. Sur Internet, on a trouvé le moyen de soumettre nos questions au Yiking. Raconter John Cage, on commence par quoi ? Alors, on clique sur le Yiking. L'hexagramme qui sort, c'est l'hexagramme 30. La clarté, le feu, l'attachement. Ça pourrait faire penser à son histoire avec Merce Cunningham.
Il était Ulrike Kasper. Avec sa femme, Senia, elle s'appelait. Ils avaient ensemble rencontré Merce Cunningham à la Cornish School.
John Cage est venu pour jouer le piano pour des cours.
J'étais l'accompagniste.
Il a organisé un groupe de percussion et il m'a demandé si je veux jouer dans cet petit orchestre. Il y a quatre joueurs. Et oui.
Et John Cage et sa femme sont tous les deux tombés amoureux de Merce Cunningham. Il était apparemment très très charmant et ils sont tous les deux tombés amoureux de lui et c'était un désastre. C'était un peu comme une sorte de danse entre les trois qui était un peu pas très claire et ça a fini entre John Cage et Merce Cunningham et je dois dire c'était apparemment vraiment un couple idéal. Ils ont partagé toute leur vie, partagé leur œuvre, ils ont partagé leur énergie, leur créativité. Ils se sont mutuellement accompagnés dans leur création en partageant les mêmes amis, les mêmes intérêts, en faisant du pain, en collectant des champignons. Ils étaient toujours en troupeau. Je ne sais pas comment et où ils vivaient à la campagne, mais je sais dans les premiers temps, ils étaient vraiment pauvres avec Merce Cunningham. Ils étaient très proches. Dès qu'ils étaient au Black Mountain College, ils avaient rencontré Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg a toujours été le directeur artistique de la Merce Cunningham Dance Company. Ensuite, il y a Jasper Jones qui se joint à eux. Évidemment, lorsqu'ils allaient vers les spectacles, ils n'avaient pas le moyen. John Cage conduisait le van et tout le monde était dans le van, avec les instruments de musique, avec les danseurs, avec le matériel, et tout le monde était dedans. Et ils conduisaient jusqu'à ce qu'ils arrivaient quelque part au...
Arizona, l'année passée. Et un des danseurs, Charlie Moulton, est allé pour voir le désert. Et il est revenu avec une pièce de cactus sec. Morte et sec. Et il a mis près de mon oreille et a fait vibrer one of the spines. En quelques jours, j'ai mis un needle.
Une épingle.
Oui, dans le cactus. Et l'autre, un bout dans un cartridge. Et on peut le amplifier. Et on peut chercher sur le cactus de trouver une gamme de fréquences surprenantes. Et j'imagine maintenant une orchestre, disons botanique.
Lui, ce qu'il dit, c'est que mushroom est le mot le plus proche de music dans le dictionnaire.
Jean-Yves Bosseur.
Donc ça, alors, je ne sais pas si ça explique grand-chose, d'où son intérêt pour les champignons, à tel point qu'il a participé à une sorte d'émission très populaire en Italie, de la RAI, et qu'il a obtenu, je ne sais pas quelle somme assez astronomique à l'époque, d'ailleurs qu'il a immédiatement servi à financer un car Volkswagen pour Merce Cunningham. Et puis il avait en même temps eu le prix du candidat le plus sympathique, je crois.
John Cage est un personnage, que ce soit d'ailleurs, pour par rapport à ses
Ariel Kirou.
Goûts sexuels, ou par rapport à ses goûts artistiques, c'est effectivement quelqu'un qui est un personnage de la contre-culture, qui est un personnage qui, effectivement, par rapport à l'Amérique dominante, est évidemment à la marge. Bon, il a vécu dans des univers où ce qui avait le plus de valeur, c'est la singularité. Et non seulement la singularité de l'individu, mais sa capacité à la partager. Et il y a évidemment un rapport très clair entre... on va dire ce qui est sa posture, son identité, sa singularité sociale et culturelle, avec ce qu'il a créé après en tant que musique.
Ça a été important, vous pensez, justement, dans sa démarche, le fait qu'il ait travaillé en parallèle pratiquement toute sa vie avec Merce Cunningham, qui était aussi son compagnon à l'époque.
Oui, oui, ça c'est extrêmement important. D'abord, ça a été pas seulement Cunningham, il y a eu d'autres chorégraphes. Et pour lui, c'était une manière aussi de faire jouer sa musique, qui était refusée par les instances officielles aux États-Unis.
Au commencement... les musiciens ont dit que ma musique n'était pas la musique. Mais les danseurs ont toujours cru que c'était assez musical.
Quelque part, Merce Cunningham avec John Cage, c'est un couple du même ordre hein, que Pierre-Henri avec Béjart. Sans parler de tous les ballets de Bob Wilson avec les musiques de Philip Glass ou ce genre de choses. Donc, hein, et d'une certaine façon, finalement, le monde de la danse est l'équivalent des recherches donc de gens comme John Cage, comme Olivier Messiaen, comme Edgar Varèse en fait. Hein. Donc, je crois que c'est ça que John Cage trouvait en fait hein, chez Merce Cunningham, c'est que au fond les deux trouvaient des inspirations l'un chez l'autre.
Is it erotic?
I say yes.
John Cage. L'histoire d'amour avec Merce Cunningham, la danse et la musique, première séquence, et maintenant. Alors on va demander au Yi King, donc quelle séquence pour succéder à la danse. Alors je clique. Alors c'est l'hexagramme 53, la lente progression. Ça peut correspondre à sa formation.
Just being... You mean... being one thing, making one sound, and not saying anything.
No. Life will not suspend thee.
J'ai décidé d'abord de devenir écrivain, mais j'ai arrêté mes études à l'université après 2 ans et je suis venu ici à Paris. Et ici, j'ai entendu un concert de John Kirkpatrick. Il a joué de Scriabine et de Stravinsky et ça m'a donné l'idée d'écrire la musique. Parce que j'ai pensé que si la musique est comme ça, je peux la faire. Et j'avais la même impression de la peinture moderne que j'ai vue ici, à Paris. J'ai passé 3 ans dans la peinture et la composition. C'était les fins des années 20 et le commencement des années 30. Nous avions le débâcle et j'ai gagné de l'argent en donnant des conférences aux États-Unis sur la musique du XXe siècle et sur la peinture.
Une petite chose assez amusante, c'est que son père était un inventeur. Donc peut-être que cet aspect de sa personnalité doit quelque chose à son père. Okay, j'avais longtemps hésité entre l'architecture et même d'ailleurs, il avait pensé être pasteur à un moment donné, je crois. La musique, c'est un peu Schoenberg qui l'a entraîné sur cette voie, puisque Cage avait demandé des cours à Schoenberg. Évidemment, il ne pouvait pas le payer. Et Schoenberg lui avait dit, bon, écoutez, moi je suis d'accord pour vous enseigner, mais il y a une condition, c'est que vous preniez une décision définitive et que vous vous consacriez uniquement à la musique.
Sounds are just vibrations, isn't that true?
Bien que Cage ait toujours eu beaucoup d'admiration pour Schoenberg, je crois qu'il n'était vraiment pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et il y a beaucoup d'histoires qui circulent à ce propos, dont l'une est... Enfin, c'est une histoire assez connue.
Je dois renoncer à être compositeur. Mais j'ai dit pourquoi, et il a dit...
Vous n'avez pas le sens de l'harmonie, et pour un compositeur, ne pas avoir le sens de l'harmonie, c'est se frapper la tête contre les murs.
Et j'ai dit, eh bien, je vais me battre contre ces murs.
Then tell me, do you prefer Bach to Beethoven? And why?
There was a beautiful remark by Margaret Mead. Do you know her name?
Yes.
I knew her. And she said that now that we live longer than we did, that there's no reason why we should continue doing the same thing all the time. We could change.
Séquence 2. John Cage a choisi la musique. Maintenant, séquence 3. Donc on va cliquer sur le yiking qui est sur Internet. On tire le yiking. Et donc là, c'est l'hexagramme 5 qui sort. L'attente, la résistance. Ça peut faire penser à la séquence sur les années 30, sur le texte Credo qu'il a écrit au moment où il résistait à la musique traditionnelle.
Dans les années 30, il y a un texte qui me semble extrêmement important. C'est le texte qui s'appelle Credo. Et dans lequel il veut se battre pour des centres d'expérimentation musicaux. C'est-à-dire que là, on sent qu'il veut sortir des sentiers battus, donc s'engager dans une voie vraiment expérimentale, avec de nouveaux instruments, de nouvelles sources, et ça va donner ensuite son recours à la radio, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'assez tôt, il se prononce en faveur de nouvelles sources sonores. Et il dit que les instruments électriques ne doivent pas servir à imiter les instruments existants. Donc, par exemple, il dénonce l'utilisation immodérée du vibrato, qui est une aberration par rapport à ces nouvelles sources instrumentales, c'est-à-dire cette idée qu'en utilisant de nouvelles technologies, on va pouvoir essayer d'inventer de nouvelles approches de la musique. Parce qu'en fait, la définition de expérimental chez Cage, c'est « est expérimentale une musique dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir au moment où on l'exécute ». Ça, c'est une phrase absolument fondamentale.
Il y a ce point commun avec Edgar Varèse ou même Olivier Messiaen, qui est plus académique, plus classique de cette manière, en fait, d'avoir littéralement inventé les musiques électroniques à une époque où cette musique n'existe pas dans la société. Elle va réellement exister à partir de l'après-guerre. avec la musique sérielle, justement, la musique dite électronique de l'école de Pierre Boulez, qui invente littéralement des sons, et elle est uniquement reconnue du côté savant. Or, John Cage a exploré des sons, l'art des bruits des futuristes italiens, et notamment de ce manifeste de Luigi Russolo, qui date de 1913, qui s'appelle « L'art des bruits », qui est un manifeste assez drôle, qui met en scène la beauté des bruits du quotidien, des bruits de la rue, des bruits des scies électriques, des trains, qui poussent très loin, comme une sorte d'horreur indicible, les salles de concert, avec tout son côté convenu, et ainsi de suite. Eh bien, cette vision provocatrice, c'était plus de la théorie qu'autre chose. Or, John Cage est réellement le premier qui concrétise d'un point de vue musical ce que les futuristes italiens ont mis en scène dans l'art des bruits. C'est un pur inventeur. Imaginary Landscape numéro 3, c'est un piano préparé, une cymbale chinoise et deux phonographes à vitesse variable sur lesquels sont lus des disques ayant plusieurs fréquences sonores.
Donc c'est la première utilisation du tourne-disque détourné.
C'est l'une des toutes premières expérimentations, effectivement, du tourne-disque. Il y a une citation que j'aime beaucoup de lui. Il faut bien, là encore, faut se remettre en perspective. On reste malgré tout, donc en 1939, à une époque où tout le monde n'a pas chez lui un électrophone. Hein, on parle d'électrophone. Et où, évidemment, l'idée de faire de la musique avec un électrophone est complètement aberrante. C'est quelque chose qui semble totalement fou. Or, dès 1937, et là, en ce sens, il est très proche du mouvement Bauhaus, et notamment de Laszlo Maolinagi, qui est lui aussi un grand inventeur du Bauhaus. Et en fait, cette citation de John Cage en 1937, je la trouve assez incroyable. Il explique, il dit « Le phonographe nous donne l'opportunité de créer des sons et des rythmes au-delà de notre imagination. » Et il ajoutait, donc à cette opportunité de créer des sons au-delà de l'imagination par les phonographes, « Composer et jouer avec quatre phonographes, pour moi, c'est comme construire de la musique avec un quartet pour moteur à explosion, souffle de vent, battement de cœur et glissement de terrain. »
Why don't they keep their mouths shut and their ears open? Are they stupid? Why is it so difficult for so many people to listen? Why do they start talking when there is something to hear?
Il sera aussi à l'origine pratiquement des premières œuvres de l'électroacoustique vivante avec l'utilisation des micros de contact, par exemple au moment de cartridge music ou de pièces comme ça. Par la suite, il a beaucoup travaillé sur des collages de disques, des superpositions de plusieurs musiques à travers cette utilisation de la radio, par exemple dans Imaginary Landscape numéro 4, qui est pour 12 postes de radio, et donc manipule les exécutants en direct. Là, c'est vraiment la surprise totale, puisqu'on ne sait pas ce qui va sortir de ces récepteurs. Il y a toujours une petite légende qui veut que la première exécution de Imaginary Landscape était très très silencieuse, parce qu'en fait, elle s'est faite tout simplement à une heure où il y avait très peu d'émissions de radio, et donc on entendait extrêmement peu de son. Ça s'est pas approché du silence.
Il a utilisé effectivement donc, des radios, beaucoup de sons radio. Il a utilisé, on l'a vu, des phonographes.
Des grippins.
Voilà. Et donc il a même effectivement utilisé dans HPSCHD, autour d'un petit morceau de Mozart, je crois, un truc comme ça, un ordinateur. Donc il, vraiment, à tout point de vue, il n'y avait strictement aucun interdit en termes d'instruments. Et effectivement, ce qu'il a démontré par ce biais-là, c'est que... par rapport à la question de la mémoire, il ne dit pas qu'il faut une absence de mémoire. En revanche, ce qu'il dit, c'est que la mémoire statifiée, c'est-à-dire la mémoire qui est celle de la musique dite classique ou dite contemporaine, avec ses règles, avec ses canons, c'est celle-là qu'il faut briser, quelque part. en fait. C'est celle-là qui nous empêche d'imaginer, qui nous empêche d'avancer, en fait. Il faut l'avoir en tête. Si on l'a pas en tête, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on réalise. Donc ça existe quelque part, mais il ne faut pas refuser cette existence. En revanche, il faut se donner les moyens de la dépasser quelque part. Et là, effectivement, on peut dire sans aucun souci que John Cage a été le premier traître à la musique bourgeoise.
Séquence 3, John Cage utilise les nouvelles technologies à son profit. Séquence 4. Donc je tire la séquence 4, toujours avec le yeeking. Je clique. Donc qu'est-ce qu'il va apporter comme réponse à ma question? Donc l'hexagramme 62, l'excès. Pourquoi pas la séquence sur l'anarchie?
C'est vraiment fou ici. Ça me plaît, mais je comprends pas.
Vous connaissez John Cage?
Oui, je connais John Cage.
Vous avez Musée Circus, John Cage.
John Cage est un escroc, qu'entendez-vous par là?
Il est là-bas, il est à côté des chiottes, il regarde tout le monde et il se marre. Puis il fait rien, il a invité 3000 personnes à semer la merde. Et il a réussi, et bravo! De penser que cette jeune fille dans la journée elle est stylo dactylo et qu'elle s'emmerde, alors elle vient, elle tape sur un gong, c'est bien.
Il y a beaucoup d'organisations qui sont ensemble et ça fait la désorganisation. J'espère que ça devient encore plus compliqué.
S'il y a un courant vers lequel on peut l'orienter, c'est l'anarchie, mais encore une fois sans dogme. Donc c'est une conception du jeu musical qui est une conception non autoritaire, évidemment, qui est une conception beaucoup plus ouverte. D'ailleurs, Cage dit à un moment donné, composer c'est une chose, interpréter c'en est une deuxième, écouter c'en est une troisième, et ces trois actions peuvent n'avoir aucune relation de cause à effet entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est admettre que l'auditeur, spectateur, prend ses propres responsabilités.
Ce qui est intéressant, en fait, dans Cage, c'est qu'il va, en fait, combiner ces différentes références. C'est-à-dire que vous trouvez dans un même paragraphe, hein, une référence à Thoreau,
Judith Delfiner,
à Satie, à Duchamp. Il va lui-même faire son petit, un syncrétisme, en fait, entre ces différents penseurs. Comme le lien entre Eckhart et le zen, entre, voilà, ou entre Duchamp et le zen. Hein, c'est les... Donc ce qui est intéressant, c'est ce syncrétisme qu'il opère.
Dans l'imaginaire contemporain, John Cage est souvent positionné à côté, évidemment, de gens qu'il a fréquentés, hein, comme le Bauhaus, comme le groupe Fluxus, comme les musiques dites répétitives de Philip Glass, comme Marshall McLuhan. Donc il y a toute une tradition de contre-culture américaine à laquelle il appartient. Cette tradition, effectivement, c'est une tradition qui interroge les notions de communication, les notions de partage, beaucoup plus que d'autres traditions, et qui se voulait, effectivement, plutôt rebelle par rapport à une vision beaucoup plus hiérarchique de la communication ou des sociétés. Et donc il y avait cette volonté en fait antifasciste dans la vision donc de John Cage, qui disait d'ailleurs lui-même qu'il était beaucoup plus influencé par des territoires, des gens hors musique que dans la musique elle-même. Donc oui, ces penseurs nourrissaient une vision politique qui en retour nourrissait sa musique et ses méthodes musicales. Et c'est en ce sens-là que toute sa vie, son œuvre a été politique, même si effectivement, toute sa vie, il n'a pas, loin de là, servi, on va dire, un changement passant par la politique.
Il était anti-hiérarchique. Et dans le son, qui, quand on lit sa pensée, ses bouquins, qui peut détenir,
Joël Léandre,
l'assurance du beau et du pas beau? Qui peut dire que ça n'est pas un son beau? Vous voyez bien que ça touche après le politique, les institutions, la culture, qui décide d'aller voir ça et pas ça. Ça, c'est Cage aussi, qui ouvre toutes ces possibles. Hein. Donc, moi, je viens du classique. Donc, on n'apprend que le beau, le sujet du beau, le beau son, le vibrato. Mais Cage m'a ouvert ouais, le son, l'esprit, de justement, si tu as envie de jouer, faire... C'est tout à fait possible.
Would you want to live in such a society? I can't imagine wanting to live in such a society.
Séquence 4, il n'y a plus d'hiérarchie. Séquence 5. Alors on va tirer avec le yiking. Alors on va poser notre question. Quelle sera la séquence 5? Le pouvoir du petit. C'est l'hexagramme 9. Ça fait penser à l'enfance.
Oui, et quel est le premier souvenir de ta vie?
Je ne me souviens pas.
Même dans la musique?
La première expérience musicale, c'était une scène, piano lessons, leçon de piano.
Et comment on devrait donner la leçon de piano première?
Aux cinq doigts. J'étais fasciné. J'avais envie d'avoir un piano. Et quand mes parents l'ont acheté, même avant le... While it was being taken into the house, I began to play it.
Milton, le père, est du genre inventeur. Inventeur de dispositifs radiophoniques, de procédés de vulcanisation de pneus, de moteurs d'avion, d'appareils qui utilisent la gravitation, d'inhalateurs, de sonars, d'homéopathie et même de sous-marins qui font trop de bulles pour rester discrets. Lucrezia, la mère, pianiste, journaliste quand la famille est sur la paille, est du genre à menacer régulièrement de quitter la maison. John, le fils, du genre dont on se moque à l'école. Il gagne des concours d'éloquence, fait du scoutisme, évite les bagarres et anime, à 12 ans, une émission de radio scout où il fait chanter, déclamer et jouer ses camarades.
Il vient d'une famille de pasteurs, donc la religion était omniprésente dans le quotidien, dans cette famille, et elle continue à être omniprésente dans tout son travail. Je dirais, dans son travail plus tard, ce ne sera pas une présence religieuse, mais plutôt spirituelle, donc c'est quand même une prolongation. Il est rentré dans la musique même grâce à sa tante Phoebe, qui était très musicale, qui l'a fait aimer la musique. Je sais qu'il avait un lien très intense avec sa mère. Sa mère était très préoccupée de sa santé, je crois. Elle lui imposait toujours du jus d'orange. En tout cas, c'est la seule chose que je retiens de son enfance, l'histoire du jus d'orange. Elle lui imposait le jus d'orange pour qu'il soit en bonne santé. Et après, il a plus tard appris que le jus d'orange, en tout cas artificiel, n'était pas vraiment très bon pour la santé. Il a arrêté de le boire. Je pense que c'est vraiment la formation qu'il s'est fait lui-même à travers les voyages et les rencontres dans sa jeunesse, certainement, parce que je pense qu'il avait seulement 18 ans quand il a fait son voyage à Paris, quand il a découvert le travail de Gertrude Stein, qui l'a énormément fasciné, la poésie de Gertrude Stein, avec cette célèbre phrase « A rose is a rose is a rose », etc. Donc la découverte du dadaïsme à Paris. Il a découvert l'architecture. À Paris, il a brièvement travaillé dans un bureau d'architecture. Il touchait à tout.
J'ai le seul enfant de ma mère et de mon père. Il y avait deux autres avant moi, mais l'un était né mort et l'autre était un né monstre. J'ai toujours été émerveillé pourquoi ma mère avait le courage d'essayer une troisième fois.
L'enfance de John Cage à Los Angeles, qu'est-ce qui vient après? Alors on va poser cette question au Yeking, l'hexagramme 40. La délivrance, ça fait penser en fait au moment où il découvre le bouddhisme, où il est dans l'acceptation.
C'est comme un tournant, ce moment-là. Ça peut être ça, la délivrance. Séquence 6, le bouddhisme zen.
On est dans les années 42. Il est déjà sur le point d'être initié vers le bouddhisme. Il fait la rencontre d'Daisei Taitaru Suzuki vers 42-43. Parce que jusqu'à là, en effet, il s'est débattu. D'ailleurs, il a fait d'abord une psychanalyse et il a dit, mais ça ne m'intéresse pas. Il avait d'abord un peu d'intérêt aussi pour Dada, surréalisme, etc. Il s'est désintéressé de ça. À ce moment-là, il a compris qu'il faut accepter. Et il est parti sur l'acceptation. Il a dit que voilà, comme j'accepte les choses, ça veut dire je ne juge pas et je ne suis pas subjective. Je ne vais plus déformer le sang, lui donner la forme que je veux, mais tel qu'il se présente, je laisse être le sang ce qu'il est. En dehors de toute idéologie, ce qui convient parfaitement pour les années 40, où on sort juste de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, d'un coup, il n'y a plus cet encadrement du sang comme avant, qui la force dans une position. Donc c'est vraiment un concept philosophique.
Moi, il y a deux termes que j'aime beaucoup pour qualifier la personnalité de John Cage. C'est Dada et Zen. Voilà, c'était un personnage Dada Zen. Dada, ça veut dire que c'est un personnage qui adore le hasard, qui adore la folie, qui pulse sans cesse, c'est un inventeur. Et il y a aussi ce côté zen, c'est-à-dire il n'invente pas n'importe comment, il invente avec une sorte de capacité à s'extraire de lui-même, à disparaître de lui-même, volonté d'échapper au soi, d'échapper, on va dire, au statut, à tout ce qui est de l'ordre de ce qui nous alourdit dans notre environnement, pour justement écouter ce qu'on ne voit plus.
And here there your blood in circulation. I have nothing to say and I am saying it.
Séquence 6. Le bouddhisme, qu'est-ce qu'on peut raconter après ? L'hexagramme 19, l'approche de la force. Alors, l'approche de la force, ça peut faire penser à 4 minutes 33. Ce morceau qu'il compose au moment où il travaille autour de la question du silence. Et puis c'est aussi le morceau qu'il a rendu célèbre et puis qui l'a guidé toute sa vie. Ça peut être ça, l'approche de la force. En 1952, il compose 4 minutes 33, donc qui est, on va dire, un peu le tube de John Cage.
C'est un tube bien silencieux. Absolument, c'est à ce moment-là qu'il compose 4 minutes 33. C'est à ce moment-là qu'il compose 4 minutes 33, qui va être une œuvre, effectivement, à laquelle il va se référer sa vie durant. Il dit, quand je compose un morceau, je pense toujours à 4 minutes 33. L'idée était là depuis 1948, hein, c'était cette recherche donc, d'utilisation du silence dans la musique. Et puis, il se rend compte finalement que le silence, le concept même de silence est complètement illusoire, il n'y a rien de silencieux. Hein. Il fait l'expérience de la chambre sourde à Harvard.
Quand j'avais l'expérience d'entrer dans la chambre anéchoïque à Harvard University vers le commencement de 1952, j'avais l'expectation d'entendre rien. Mais j'ai entendu deux sons, un qui était haut et l'autre qui était bas. Et on m'a dit que l'un qui était haut, c'était le système nerveux de moi-même, et l'autre, c'était le sang en circulation. Ça coule.
C'est la vue des White Paintings de Rauschenberg qui lui a donné l'idée, qui a été l'élément déclencheur, en fait, de 4 minutes 33. C'est-à-dire que les toiles blanches de Rauschenberg étaient saturées, toutes blanches qu'elles étaient, elles étaient saturées des lumières environnantes, des ombres, des poussières, des particules. Et donc c'était, là encore, pas du tout un rien, mais un quelque chose sur rien. Enfin voilà, cette imbrication en tout cas entre les deux.
C'est une pièce très courte. Par opération d'hasard, c'est simplement 4 minutes et 33 secondes. Et c'est divisé en 3 mouvements. Mais à Woodstock, quand David Tudor l'a présenté pour la première fois, il jouait dans une salle et c'était ouvert et on entendait le vent dans les arbres. Puis il a fermé
le clavier, le piano.
Il a ouvert entre les mouvements et en le fermant, une douce pluie a commencé. Il l'a ouvert et quand c'est fermé pour la troisième fois, le public a commencé à parler. Et comme ça, c'était trois mouvements différents.
Il n'y a plus de hiérarchie entre les sons intentionnels, produits par des musiciens dûment étiquetés en tant que tels, et des sons qui seraient gênants. Et donc, c'est quelque chose qui l'a transporté, ce constat, dans sa propre vie.
C'était une approche très philosophique de la musique.
Oui, tout à fait. À la fois philosophique, écologique, etc.
Pourquoi vous dites écologique ?
Parce que comment incorporer toutes les sources sonores du monde, si on peut dire.
C'est une attention à l'environnement.
C'est une attention à l'environnement, exactement.
Écoutons. Les toussements, c'est peut-être le commencement des chansons. Hein?
C'est merveilleux. On peut ajouter des rires. Un homme de l'assistance est parti. Ça veut dire que nous sommes dans le monde de musique moderne. Essayons de ne pas faire des sons. C'est encore riche. Nous n'avons pas le pouvoir d'être si lent. Si nous tous étions si lents, il y aura des sons à écouter. Je voudrais les entendre.
Séquence 7, 4 minutes 33 et le silence. Alors qu'est-ce qui va succéder au silence ? On demande au Ye King qui va nous trouver la solution. C'est l'hexagramme 35 qui est sorti, l'avancement. L'avancement, ça me fait penser au moment où il va au Black Mountain College et où il va inventer le happening. C'est un moment où il progresse beaucoup, l'année 52. Donc ce serait séquence 8, Black Mountain College.
Oui, tout à fait. Le Black Mountain College est absolument essentiel. Il va au Black Mountain College la première fois en 49 et c'était une des premières écoles interdisciplinaires où on apprenait l'architecture, la musique, le théâtre, la danse, tout était omniprésent.
Le modèle, c'était bien évidemment le Bauhaus. C'est-à-dire quand le Bauhaus a fermé en 1933, un certain nombre d'enseignants sont partis aux États-Unis, à commencer par Joseph Albers. Et donc il y avait toute une tradition qui a été donc implantée aux États-Unis. C'était un endroit complètement, enfin assez quand même isolé, hein, dans un environnement rural et qui était autogéré. C'est-à-dire qu'il y avait un potager, il y avait des ventes qui assuraient une certaine autonomie financière à la communauté, un petit peu idéale, retranchée. Il y avait une absence de hiérarchie aussi entre les étudiants et les enseignants. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 40, va s'instaurer le système des sessions d'été qui vont donner lieu finalement aux événements reconnus a posteriori comme les plus décisifs, les plus marquants de l'histoire de la vie du collège.
Il y a eu quand même cet événement qui était la montée de l'Allemagne nazie et la fuite d'un grand nombre d'artistes, de créateurs, de penseurs vers les États-Unis à partir de la fin des années 30 et qui effectivement a continué au moins jusqu'en 1941-42 de façon assez gigantesque, hein, et pas simplement des artistes juifs, des artistes qui étaient considérés comme tous les artistes contemporains comme faisant de l'art dégénéré. En fait, les gouvernants américains, Roosevelt, effectivement, il a tenté de trouver, ou il a trouvé en fait, dans tous ces artistes exilés, une puissance, une force capable d'imaginer des réponses, c'est-à-dire ce que serait une communication, ce que serait un art ou des arts, une musique, une peinture, des dispositifs qui soient l'exact contraire des dispositifs, des musiques, des arts, de tout ce que portait, avec son côté statufié, avec son côté pompier, le fascisme ou le nazisme.
I don't think that the image of that power and intention and determination would make a society that I would want to continue living in.
Fred Turner pense que John Cage est l'un de ceux qui ont influencé ce type de mouvement. Tous ces gens-là ont mis en place cette logique du happening, c'est-à-dire cette logique d'un spectacle, d'un événement qui pourrait potentiellement être multimédia au sens où c'est quelque chose qui invite le spectateur à être lui-même créateur du parcours que les artistes ont mis en place. Voilà. Cette logique du happening, c'est quelque chose qui correspond à la personnalité démocratique tel que un certain type d'Amérique le souhaitait, en opposition à ce que serait par exemple la personnalité nazie, où forcément il n'y a qu'une direction et la bonne, et pas d'autre voie possible. Et c'est ça qui est très contemporain, parce qu'en fait ce qu'on a vécu, ce qu'on vit avec Internet, ce qu'on vit avec plus d'une vingtaine d'années, c'est justement quelque chose où la position d'auteur, elle est distribuée entre plusieurs personnes, et où le spectateur n'est plus simplement spectateur, mais est invité à participer et à agir. Et en ce sens-là, on peut vraiment dire que John Cage a été l'un des inventeurs, non pas du numérique, mais de ce que sont ces cultures du numérique.
C'est là qu'il a l'idée de mettre en œuvre ce premier happening. Et c'est là, effectivement, que Rauschenberg va exposer pour la première fois ses white paintings. Franz Klein également, donc des peintures noires et blanches. Il va avoir des lectures. Cunningham va y participer. Et donc, c'est un événement qui était très important, mais qui a été reconnu rétrospectivement comme très important.
It was Cage's idea to make this evening, which didn't have a name, where a number of us did what we chose to do individually at the same time, and David Tudor was there and played the piano, and John read, I think, and I danced through the public. The public was sitting in the middle, and each person did what he chose to do.
On sait qu'il y avait des échelles dans l'espace et qu'un certain nombre de participants ont déclamé des textes. On sait que Cunningham a dansé, certains disent poursuivi par un chien, pendant toute la durée donc, de son intervention.
On servait du café au public, donc à la fois des gestes artistiques et des gestes quotidiens avaient lieu simultanément. Et on ne savait pas quand est-ce que ça commençait et on ne savait pas quand est-ce que ça terminait. Mais c'était une transition sans qu'on se rende compte. Pourquoi ? Pour effacer les limites entre l'art et la vie.
C'est qu'ensuite c'était Black Mountain College et le happening. Après le happening, qu'est-ce qui va se passer? On va demander au Yi King. Hop. Alors, l'hexagramme 3, commencement difficile. C'est pour nous que c'est difficile, on ne trouve pas dans nos séquences quelque chose qui corresponde. Il nous reste le hasard, il nous reste la soirée Nine Evenings, il nous reste sa personnalité et sa mort. Et rien ne s'adapte à cet hexagramme. Alors on va reposer notre question. L'hexagramme 28, le grand dépassement. Là, ça me fait tout de suite penser au hasard.
En 1951-52, son élève Christian Wolff lui a présenté le Yi King. C'est un livre de sagesse chinois qui date de 3000 ans à peu près et qui était utilisé par les rois, pas comme un livre divinatoire pour connaître le futur, mais pour savoir comment agir dans une certaine situation. Il y avait 64 symboles. On pouvait poser une question, soit avec des baguettes, soit avec des pièces de monnaie. Et le livre donnait une réponse une fois qu'on avait jeté ces pièces. Il disait, lorsque j'utilise ce livre, ça m'oblige à l'acceptation.
Il cherchait des méthodes de composition impersonnelles, c'est-à-dire qui ne dépendent pas, ou le matériau sonore ne dépendent pas de ses goûts, de ses aspirations, de son intelligence, etc., mais qui ait une certaine autonomie par rapport à ses propres critères subjectifs.
C'était cette question de la subjectivité, c'est-à-dire de se débarrasser de ses goûts, de ses intentions, de sa culture.
Exactement, exactement. C'est d'ailleurs ce qu'il a bizarrement assez fortement rapproché de Boulez dans les années, dans la fin des années 40. Il partageait cette idée que l'œuvre musicale ne soit pas dépendante, comme à l'époque romantique, de la subjectivité, du pathos, etc.
Vous savez que ma musique est écrite depuis 1950 en se servant des opérations d'hasard. Mais chez les champignons pour la cuisine, il ne faut pas en servir. Je veux dire des opérations d'hasard. Rien peut être plus sérieux que les champignons, parce que c'est une question vraiment de la vie et de mort.
Et la musique?
C'est une question de la liberté, je crois.
En 1980, j'ai reçu une bourse. Tous les jours, il fallait composer. On recevait des leçons, je dirais, oui, de sa philosophie, de son travail, de ses œuvres. On nomme œuvres, de ses partitions, je dirais. Il nous détaillait certaines partitions, c'était la matinée. L'après-midi, Cunningham faisait de même. Et tous les soirs, il y avait une performance, il fallait jouer. Qu'on ait écrit je ne sais quelle salade ou quoi. Et il nous donnait, en début d'après-midi, l'orchestration, je vous jure. Quand vous devez écrire pour 10 musiciens, une tintette donc, en 3-4 heures, donc j'ai appris immensément de la structure, de la forme, des matériaux. Et le week-end, on partait à la cueillette de champignons. C'est un grand, grand spécialiste de champignons. Et vous voyez un peu, 8 et 8, 16, 16, on était peut-être une trentaine dans cette forêt, avec il avait son fameux petit panier. Il voyageait avec son panier. Et le soir, il prenait dans le panier nos noms, il mélangeait Mr. Mac Front with Miss Leon. Il était un peu comme ça avec son whisky. Et le soir, il y a le Cunningham qui disait Are you ready? On ne savait absolument pas ce que les danseurs allaient faire, dont le chorégraphe et nous. Mais ils travaillaient comme ça, Cunningham et Cage, n'est-ce pas?
Pour moi, la pièce la plus représentative de cette tendance à l'indétermination, c'est le concert pour piano qui date de 57-58, où là, il y a vraiment un éclatement de toutes les responsabilités, enfin, où chaque musicien doit se faire sa propre partition à partir des informations que donne Cage, mais qui sont très très flexibles.
Qui serait quel genre d'information, par exemple?
Par exemple, si je prends une partie instrumentale, par exemple, du concert, chaque musicien dispose d'un certain nombre de systèmes, ce qu'on appelle des systèmes, des portées. Par exemple, il y en a 5 par page, et il va déterminer. Donc, les sons ne sont plus notés avec des rythmes précis, ils sont notés avec selon trois grosseurs de points, et les points peuvent impliquer des sons forts et longs, ou forts et doux, ou bref et fort, etc. Enfin, il y a toute une combinatoire comme ça. Et donc, chaque musicien accorde une durée à chaque système. Donc, chacun fait son propre choix. Et tout ça, par exemple, sous la direction, avec beaucoup de guillemets, d'un chef d'orchestre, mais qui est uniquement là pour montrer le temps. Par exemple, la première exécution du concert, c'était Cunningham qui était le chef d'orchestre. Or, Cunningham n'est pas vraiment réputé pour être un chef d'orchestre de premier plan. Enfin, c'est pas vraiment pour ça qu'il a été célèbre.
Séquence 9, le hasard. Alors après le hasard, qu'est-ce qui vient? L'hexagramme 45, le regroupement. Alors ça fait penser à un travail en groupe, un travail collectif. Et la soirée Nine Evenings, c'était une soirée où ils ont travaillé avec 10 ingénieurs et 10 artistes.
Oui, on entend cette sirène.
Christophe Leclerc.
Cage a récupéré dans les lieux et qui a un usage visiblement militaire, dont qui est assez...
Bell Telephone Laboratories began a collaboration that resulted in a series of dance, music, and theater works. They all incorporated the new technology.
Les années 60 sont ce moment qui permet à ces projets rêvés d'explorer des possibilités qu'offre la technologie. Et donc, EAT en sera pour Cage un élément. C'est cofondé par deux artistes et deux ingénieurs, donc Robert Rauschenberg d'un côté et Robert Whitman pour les artistes. Et de l'autre côté, Billy Clover et Fred Waldauer, qui sont deux grands ingénieurs et scientifiques qui travaillent dans les plus grands laboratoires de l'époque, qui sont vraiment des lieux de l'innovation, en l'occurrence Bell Labs. C'est aussi l'occasion de formuler un projet, et là moi j'étais très surpris de retrouver ce mot révolutionnaire. Et ce terme de révolution, Cage l'emploie lors d'un enregistrement... je crois contemporain des Nine Evenings.
Donc là, on voit Cage qui a une cinquantaine d'années. Il a une chemise une cravate claire. Et donc, il est penché sur des appareils. On l'a vu tout à l'heure au téléphone. On voit des câbles, des boutons, les prises. On voit le dessous des tables et les fils électriques et les prises qui sont éclairées. Donc c'est toute la machinerie qui est mise en valeur.
C'est comme un centre Pompidou, la performance. C'est presque un rituel. C'est la lumière, la luminosité, l'ambiance. Aucun son n'est enregistré. Il s'agit uniquement de sons qui existent et qui vont être amplifiés par notamment des microphones de contact. Donc on a à la fois des sons qui sont produits localement, donc on a des appareils électroménagers, des ventilateurs, des broyeurs qui sont actionnés. Mais ça va bien plus loin que ça. Ce qui est intéressant, ce qui fait que la pièce est si importante, c'est parce qu'évidemment, ça convoquait également des sons qui provenaient de l'extérieur. Il y avait des ondes radio et c'est des lignes téléphoniques qui étaient en relation avec des téléphones disposés en 10 lieux différents de New York. Donc ça pouvait être un carrefour, ça pouvait être dans la salle de presse de New York Times, ça pouvait être dans une volière du zoo du Bronx. Il y avait un restaurant, donc des bruits de la ville. Donc comment rapporter quelque part la ville à l'intérieur d'un lieu? On sait aussi qu'il souhaitait utiliser des sons provenant de l'espace. Alors ça, on est en 66 et McLuhan est un peu le prophète des nouveaux médias et il y a cette idée effectivement du village global qui est dans les airs, mais au final il n'arrête pas de dire je n'ai pas d'intention, mais quand on lit ses interviews il dit clairement je veux faire prendre conscience de l'environnement dans lequel les gens habitent et auquel ils ne prêtent pas nécessairement attention.
I am Barbara Walt.
I am Gail Rock.
I am Jen Preston.
I am Alice Preston.
On entre dans le monde numérique aujourd'hui dans une phase où il fait partie de notre quotidien. L'époque de se dire on découvre quelque chose, on est fasciné, c'est formidable, elle est passée. Et justement, John Cage, dans la phase vraiment amont, quoi, dans la préhistoire de ces outils, il a eu exactement cette même démarche, qui est de se dire je ne m'empare pas de l'ordinateur, de la radio, du phonographe, parce que c'est bien parce que c'est moderne, c'est bien parce que le marketing me dit que c'est bien. Non, non, pas du tout, absolument pas. Je m'en empare parce que c'est le quotidien à venir, que ce sont des instruments qui prennent et qui vont prendre une importance majeure, et que faire de l'art avec ces instruments de l'aujourd'hui, c'est forcément traquer, expérimenter, chercher où se situe l'esprit, l'âme, l'essence de l'aujourd'hui. Il n'est pas fasciné par les outils, mais en revanche, il considère qu'il est absolument majeur de s'en emparer si l'on veut essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui et si l'on veut essayer de créer en phase avec lui, quitte à s'en défier, quitte à le critiquer, ce monde.
Séquence 10, Nine Evenings, et il ne nous reste plus qu'une séquence, ce sera la dernière, sur la personnalité et la fin de John Cage.
Will you tell our panel, please, what your name is and where you're from?
My name is John Cage. I'm from Stony Point, New York.
Mr. Cage, and he is from New York.
Alors, je trouve qu'il a l'air malicieux sur cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
il y a effectivement une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'humour. L'humour de John Cage. Donc, il explique d'ailleurs dans ses textes souvent comment il a appris à apprivoiser le monde des médias, la société au sens large.
Il dit qu'il préfère le rire aux larmes, donc si les gens rient, ça ne le dérange pas.
Et il joue et se joue des médias quelque part en fait. Il n'est pas dupe, il sait où il est, il sait que c'est du spectacle, que ça n'a aucun sens. Mais il joue avec, plutôt que de s'y opposer, plutôt que de se dire voilà, je rentre dans une arène, etc. Et les articles critiques, à la limite, lui faisaient presque autant plaisir que les articles laudateurs. Hein. Bah, d'ailleurs, on voit quelque chose qui ne ressemble en rien à une scène de concert. Voilà, il y a une table, il y a une sorte de pot de fleurs, il y a une baignoire.
John Cage and Water Walk.
C'était un peu le fou du roi, quoi. Moi, je me souviens que lorsqu'il est venu, ça devait être vers la fin des années 70, aux semaines musicales de Paris, ou quelque chose comme ça, bon, ben, c'était le côté spectaculaire qui prévalait, alors que il y avait toute une philosophie derrière, et beaucoup plus que cet aspect anecdotique, finalement. Et comme il était très drôle, il avait beaucoup d'humour, donc les gens attendaient ça de lui. Donc c'était un peu triste, quoi, quelque part. Mais bon, c'est comme ça. Mais je crois qu'en France, on est complètement passé à côté. D'ailleurs, ça continue maintenant. Alors que c'était quelqu'un, encore une fois, de très, très rigoureux.
C'était un peu forme, John Cage. Je ne pense pas qu'il y avait ce sujet de la dramatisation et tout ça. Il n'était pas là-dedans. Mais il a touché tous les ustensiles. On connaît cette fameuse pièce, on la retrouve sur YouTube, où il est tout jeune, il est encore star. Il y a quelqu'un qui lui pose des questions et tout. Et il a, sur le plateau, il a que des machineries. Il y a une grosse baignoire, il y a une bouilloire qu'il doit faire. Et tout est chronométré. Il y a un truc qui craque. Il y a, qu'est-ce que j'en sais, moi? Des ustensiles sonores. Parce que, au fond, il parle pas de musique, Cage. Il parle de son. Laissez les sons ce qu'ils sont.
He takes it seriously. I think it's interesting. If you are amused, you may laugh. If you like it, you may buy the recordings.
Ocean. C'est une création aussi en collaboration avec Merce Cunningham. Et Ocean, c'était au départ un livre que James Joyce aurait voulu écrire. John Cage s'était intéressé à Ulysse de James Joyce, ensuite à Finnegan's Wake. Et les deux livres ont été utilisés dans son travail. Alors Ocean, c'était un peu comme une sorte d'Ulysse contemporain, mais sous-marin. Mais il n'a jamais pu écrire ce livre, ou il n'a pas achevé ce livre. Alors John Cage avait envie de faire une composition musicale là-dessus. Ils avaient commencé à capter des sons sous-marins, c'est-à-dire des mammifères, de la glace arctique, des vagues, donc toutes sortes de bruits qu'on pourrait entendre sous la mer, qui devaient être diffusés. Et alors, cette Ocean, au centre, devaient se trouver les danseurs qui bougeaient dans toutes sortes de sens, chacun à sa façon, sans être dirigé, sans s'harmoniser forcément avec l'autre. Donc un cercle. Autour des danseurs, il devait y avoir le public, et autour du public, il devait y avoir les musiciens. Donc c'était des cercles concentriques, comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, et les sons devaient provenir un peu de partout simultanément. Donc c'était une espèce d'Ulysse, mais sous-marin, mais il n'a pas non plus pu l'achever.
As it were, another world, a whole or the best one can of it, suddenly something move miniaturized.
Je pense que John Cage est en effet mort paisiblement à 80 ans. C'est un bel âge, pourquoi pas. Il est mort paisiblement et je pense qu'il a toujours fait les choses très doucement. Et je pense qu'il est mort doucement. Daisuke Taitaru Suzuki avait dit « Oui, c'est la vie ». Et l'autre lui dit « Oui, c'est la mort ». Et l'autre lui dit « Mais quoi, alors la vie ou la mort ?» Mais c'est la même chose. Et c'était vraiment l'idée que pour John Cage, la vie et la mort, c'était la même chose. Et je pense que John Cage a toujours pleinement vécu de façon très consciente. Il était toujours présent, présent au présent.
One of the principal statements that for me in Zen Buddhism is Nichi Nichi Koreko Nichi. Every day is a beautiful day.
Merci à Jean-Yves Bosseur, compositeur et musicologue, Judith Delfiner, historienne de l'art, Ariel Kirou, spécialiste des nouvelles technologies, Ulrike Kasper, historienne de l'art, Joël Léandre, contrebassiste, et Christophe Leclerc, historien de l'art. Archivina, Claire Poinsignon, Annie Lozana, prise de son, François Rivalan, mixage, Benjamin Vignal, John Cage, inventeur d'une musique inouïe, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Anne Pérez.
C'était Une vie, une œuvre, Une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Demain, l'autre moitié de la paire, Merce Cunningham, chorégraphe et grand amour de John Cage. Mais dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de sciences.